Les colloques du Collège de France.
Et nous allons donc écouter immédiatement Manuel Covo, qui est associate professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara. C'est un spécialiste de l'impérialisme français tout au long du XVIIIe siècle, qui travaille en particulier sur l'économie politique et les révolutions atlantiques. Sa thèse, qui avait obtenu le prix de la meilleure thèse de l'EHESS et le prix de la meilleure thèse du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, a été publié en 2022 aux États-Unis sous le titre « Anthropo of Revolutions, Saint-Domingue, Commercial Sovereignty and the French-American Alliance » aux presses universitaires d'Oxford. L'ouvrage a notamment obtenu le prix Gilbert Chinard de la Society for French Historical Studies. Il a également publié de nombreux articles et chapitres d'ouvrages qui ont contribué à faire prendre le tournant impérial à l'historiographie de la Révolution française. Et il va donc nous présenter cette historiographie avec une communication intitulée « La révolution haïtienne, histoire et historiographie au pluriel ».
Donc, bonjour à tous. Donc, avant que mes collègues n'abordent l'indemnité proprement dite, donc je propose de replacer 1825 dans la trajectoire de la révolution haïtienne, car on ne peut comprendre pleinement l'indemnité sans revisiter ce que fut la révolution. Donc, comme Antoine Littil l'a dit en introduction, celle-ci est désormais reconnue comme l'une des grandes révolutions du monde atlantique, dont elle est aussi une critique, aux côtés de la Révolution américaine, de la Révolution française et du cycle des indépendances en Amérique espagnole, Argentine, Colombie, Venezuela, Mexique, etc. Donc, cette reconnaissance semble aujourd'hui aller de soi. Elle était pourtant loin d'être acquise il y a seulement 20 ans. Certes, la Révolution haïtienne a toujours occupait une place centrale dans l'histoire nationale haïtienne, et ses implications mondiales avaient déjà été repérées par des historiens au XIXe et au XXe siècle, notamment l'historien de Trinidad C.L.A. James, auteur en 1938 des Jacobins noirs. Mais aujourd'hui, cette prise en compte n'est plus l'affaire d'historiens isolés, son envergure mondiale ne porte plus à controverse. Cela parce que la Révolution touche à des thèmes fondamentaux, l'esclavage et la liberté, l'égalité, la citoyenneté, le capitalisme, la race, l'empire et l'état-nation, l'ordre international, la décolonisation, la post-colonialité et le néocolonialisme. Donc il est difficile d'en surestimer l'importance et pourtant elle a été longtemps, comme il a été dit, marginalisée dans les grands récits historiques. Dans le cas français, ce sujet a mis du temps à émerger dans la conscience collective. On ne disait rien de la révolution haïtienne lorsque, par exemple, j'étais au lycée, alors que la France était bien évidemment l'un des premiers pays concernés. Mais l'exposition « Oser la liberté » organisée l'année dernière au Panthéon montre que cette révolution finit par entrer dans l'espace public français et ici dans l'espace politique, comme l'a souligné Antoine Litti en introduction. Donc, ce qui fait la singularité de la révolution haïtienne, ce sont quatre événements majeurs qui ont déjà été évoqués. La plus grande insurrection d'esclaves de l'histoire, déclenchée en 1791, d'une ampleur inégalée. La première abolition de l'esclavage, immédiate et initialement sans indemnisation des planteurs, proclamée en 1793 à Saint-Domingue, puis entérinée par la Convention nationale en 1794. Troisièmement, la tentative de rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802, via une expédition massive marquée par une extrême violence, mais qui échoue face à la résistance des nouveaux libres haïtiens, vainqueurs de Napoléon. Et quatrièmement, l'indépendance d'Haïti en 1804, la seconde des Amériques et la première fondation d'un État gouverné notamment par d'anciens esclaves. Chacun de ces événements est en soi d'une portée fondamentale pour l'histoire globale. Je voudrais insister ici sur deux points qu'il convient de tenir ensemble, même s'ils peuvent sembler en tension. D'une part, cette révolution peut être définie par ces événements décisifs que j'ai cités, mais d'autre part, elle relève aussi d'une histoire profondément humaine, marquée par la diversité des acteurs et des groupes, la variété des comportements, les peurs, les revirements, les alliances changeantes, et une incertitude constante qui sont le propre d'une révolution. Autrement dit, au moment où la conscience autour de la révolution haïtienne se cristallise, notamment en France, il faut se garder de l'ériger en mythe ou en fable. Comme pour les révolutions américaines, françaises, chinoises, russes, mexicaines et d'autres, la révolution haïtienne fut d'une extrême complexité. En tant qu'objet historique, elle mérite d'être abordée avec nuance, en assumant la non-linéarité de son déroulement, les nombreux retournements de situation, et les nombreux débats historiographiques qu'elle continue de susciter. Et même sa chronologie mérite d'être interrogée. Donc la révolution haïtienne commence-t-elle en 1791 avec le déclenchement de l'insurrection générale des esclaves? En 1790 avec la révolte des libres de couleur? En 1789 avec les premières agitations des colons blancs? Ou bien faut-il remonter plus loin encore aux multiples actes de résistance mentionnés par Dominique et aux révoltes menées par les esclaves bien avant la période révolutionnaire proprement dite et même au-delà des mers sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest? De la même manière, à quel moment s'achève-t-elle? En 1804, date de la proclamation de l'indépendance, si l'on considère la fondation de l'État-nation comme son aboutissement. Mais les luttes qui ont façonné cette révolution ne s'arrêtent pas là. Les tensions persistantes entre groupes sociaux fortement racialisés, les débats autour de la nature du régime politique, la longue quête de reconnaissance internationale du nouvel État et évidemment la rançon imposée en 1825, tous ces éléments révèle les prolongements structurels de la Révolution, bien au-delà des dates canoniques. Donc interroger ces bornes chronologiques, c'est refuser de figer la Révolution haïtienne dans un récit téléologique. Mais il faut souligner que l'écriture de ces histoires, au pluriel, demeure un exercice difficile pour de nombreuses raisons. La première est celle de l'accès aux archives, ainsi que la nature même de ces archives. Certes, il existe des sources en Haïti, notamment à la Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit. Mais une grande partie des documents essentiels à l'étude de la Révolution haïtienne est dispersée à travers le monde atlantique. En France, mais aussi en Grande-Bretagne, en raison de l'occupation temporaire d'une partie de la colonie par les Britanniques pendant la Révolution, et des liens avec la Jamaïque, par exemple. On peut également trouver des archives aux États-Unis et lire les documents apportés par les planteurs fuyant la Révolution ou ceux des négociants, mais des documents qui livrent aussi des informations sur les personnes afrodescendantes qui circulaient également dans ces espaces. L'Espagne détient des fonds précieux, puisque l'île d'Espagnola était encore, à cette époque, partagée entre Saint-Domingue et la colonie espagnole qui deviendra plus tard la République dominicaine. Cette dispersion géographique est une caractéristique singulière de la Révolution haïtienne. Donc les sources primaires essentielles à son étude sont souvent conservées à des milliers de kilomètres de l'île. Un exemple emblématique en est la découverte, en 2010, du document original de la Déclaration d'indépendance haïtienne par l'historienne Julia Gaffield aux Archives nationales britanniques. De fait, la recherche sur la Révolution haïtienne implique généralement une approche transnationale. Cela suppose une circulation entre les fonds, les langues, les traditions archivistiques et une capacité à relier les fragments d'un passé diasporique. Heureusement, l'accès matériel aux sources s'est nettement amélioré au cours des dernières décennies grâce à d'importants efforts de numérisation. Donc citons par exemple ici Gallica par la Bibliothèque nationale de France, le fonds Haitian Studies à la John Carter Brown Library, ou encore le projet Digital Library of the Caribbean, parmi bien d'autres. Donc ces initiatives ont considérablement élargi les possibilités de recherche et ouvrent des perspectives nouvelles, notamment pour les chercheurs basés en Haïti et dans les Caraïbes. Mais le problème ne se limite pas à l'accès aux archives. Il concerne tout autant la nature des sources et la manière de les lire. Une approche critique est en effet indispensable. Une grande partie de la documentation disponible provient des colons blancs, qui ont largement produit des récits, je cite, de leurs infortunes, dénonçant les violences subies lors de la Révolution. Ces textes poursuivaient bien souvent un objectif stratégique, obtenir des secours, faire reconnaître leur statut de réfugié, ou plus tard réclamer une indemnisation. Donc leur lecture des événements est donc fortement orientée, imprégnée de préjugés et de stratégies, niant ou invisibilisant la capacité d'action des révolutionnaires de Mingoa. Donc c'est précisément cette problématique que soulignait en partie Michel Rolf Trouillot, mentionné en introduction, dans son ouvrage fondateur Silencing the Past. Il avançait que toute archive était le produit de rapports de pouvoir. Même après la défaite militaire des colons, le regard continue à structurer les sources disponibles. Il est relativement aisé de retracer l'identité et les trajectoires des habitants blancs, surtout les hommes, durant la période révolutionnaire. En revanche, l'action des révolutionnaires domingois, et plus encore des domingoises, nous apparaît souvent de manière floue, comme celle de masses indistinctes vues de loin. Les hiérarchies internes, qui préexistaient à la Révolution, les dissensions, les conflits de légitimité entre les révolutionnaires eux-mêmes ne sont visibles que par un effort de relecture critique. Cela exige recoupement, attention aux biais, prise en compte des silences et une posture méthodologique rigoureuse, car l'historien ne peut combler ses absences par la seule imagination. L'événement lui-même est d'une complexité remarquable. Et comme l'a dit Dominique, il ne s'agit pas d'un simple face-à-face entre colons et esclaves, ou entre blancs et noirs, ni d'un rapport binaire entre métropole et colonie. Si la question de l'esclavage est évidemment centrale, elle n'épuise pas à elle seule les enjeux de la Révolution. De même, l'indépendance n'en fut ni l'objectif initial, ni une conclusion inéluctable. Donc les débats entre historiens sont nombreux et s'organisent autour de plusieurs lignes de fracture dont je vais parler successivement, donc les origines, l'abolition, les acteurs et quatrièmement, la dimension globale. Donc d'abord, la question des origines, pourquoi la Révolution ? Les causes de la Révolution de Saint-Domingue ont fait l'objet de discussions nourries. Certains historiens ont mis en avant une continuité entre les pratiques de résistance antérieures et la Révolution, en s'appuyant notamment sur la figure mythique de Macandal, chef marron, empoisonneur et symbole de lutte, brûlé vif en 1758, qui aurait, selon la légende, échappé à la mort en se transformant en mouche. John Carrigus a récemment mis en cause la réalité de cette vague d'empoisonnement, qui selon lui était d'abord provoquée par une épizootie, mais il a aussi montré les liens entre la résistance locale des esclaves dans cette région qui sera le lieu de la grande insurrection et le début de l'insurrection générale. À cette lecture qu'on pourrait qualifier d'interne, ont été opposées des interprétations centrées sur les dynamiques externes. Donc le développement des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, donc notamment avec des ouvrages comme le best-seller sur l'histoire des deux Indes, par l'abbé Rénal, mais en fait qui a été écrit par une multiplicité d'auteurs, a été identifié comme un vecteur de transformation des imaginaires politiques. Donc, mais les contradictions de la pensée des Lumières à propos de l'esclavage et de la colonisation, donc soulignées notamment par Antoine Hilty, invite à une lecture beaucoup plus nuancée. Surtout, les historiens ont montré que les sociétés coloniales n'étaient pas seules réceptacles d'idées venues d'ailleurs, en particulier d'Europe, mais qu'elles ont contribué à les façonner. Les esclaves les ont interprétées, transformées et intégrées à leurs propres pratiques et conceptions, qui en retour ont été absorbées en Europe, ce que Laurent Dubois a appelé « the enslaved enlightenment ». Aujourd'hui, comme nous le verrons dans le panel suivant, les historiens vont au-delà de ce constat, c'est développer une véritable histoire intellectuelle de la révolution haïtienne. En outre, le rôle des révolutions américaines et surtout françaises apparaît central dans le déclenchement de la révolution. Donc, comme l'a déjà mentionné Dominique, on sait que des libres de couleur participèrent activement à la guerre d'indépendance américaine, notamment lors du siège de Savannah en 1779, ce qui leur conféra une expérience militaire et politique décisive. Ce fut par exemple le cas d'André Rigaud, futur acteur majeur de la Révolution. Quant à la Révolution française concomitante, son influence fut double. D'une part, l'aspect le mieux connu, elle introduisit des idées politiques et institutionnelles qui pouvaient être mobilisées par les acteurs locaux, égalité, souveraineté populaire, et qui étaient relayées dans la colonie. Mais d'autre part, et c'est un point aussi important à souligner, elle provoqua un effondrement du pouvoir colonial et une instabilité dont les différents groupes sociaux cherchèrent à tirer parti. Les sociétés abolitionnistes métropolitaines, donc les Amis des Noirs, jouaient un rôle ambivalent, plaidant pour une abolition progressive, mais restant attachés à une vision coloniale qu'ils souhaitaient renouveler. Mais il faut aussi souligner l'importance des origines africaines de la Révolution, visibles dans les pratiques militaires, les modes d'organisation communautaire et les expressions religieuses créolisées qui ont déjà été abordées par Dominique, entre christianisme, islam et vaudou, dont la cérémonie, donc le plus célèbre, la cérémonie du bois caïman, qui précède l'insurrection des esclaves, est l'exemple le plus frappant. Ces éléments ont contribué à forger des formes de résistance et de cohésion dans le contexte de la Révolution. D'autres historiens, tels David Guégus, enfin, déjà mentionné, ont insisté sur le facteur démographique dans l'origine du soulèvement. L'année 1790, comme l'a dit Dominique, constitue le pic de la traite des esclaves à Saint-Domingue. Cet afflux massif, à la veille de la Révolution, créa un déséquilibre structurel profond. Donc c'est donc à une combinaison de facteurs multiples, culturels, intellectuels, politiques, militaires, économiques ou démographiques, que l'on doit à la jeunesse de la Révolution haïtienne et qui va continuer à provoquer des débats. Donc, deuxième point, la nature, qui sont les acteurs de la Révolution ? Donc, une autre ligne de fracture importante concerne cette identification. Sur qui faut-il porter l'attention ? Sur les grandes figures individuelles, donc à commencer par Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines, ou sur les dynamiques collectives, donc la thèse de Caroline Fick, par exemple, sur les esclaves insurgés, sur les libres de couleur, voire les colons blancs. Donc la société de 1789 était d'une extrême complexité sociale, politique, économique et raciale, comme l'a présenté Dominique. Donc je passe plus vite sur ce thème. La diversité des groupes en présente, leurs intérêts divergents et leurs alliances instables contribuent à la difficulté de l'interprétation. Donc les blancs, les libres de couleur et les esclaves ne sont pas des groupes homogènes et qui sont divisés. Ce n'est pas uniquement des divisions entre libres de couleur et blancs ou entre esclaves et blancs, mais à l'intérieur de ces groupes, il y a des alliances beaucoup plus complexes qui tiennent à des enjeux totalement différents et qui sont liés aussi à la variété régionale. Donc, notamment la révolte de Vincent Auger en 1790, qui précède l'insurrection des esclaves et qui jouera un rôle fondamental dans le développement de la Révolution. Mais un point qui est important aussi, auquel a fait allusion Dominique, c'est la variété régionale. Les révoltes sont très différentes, en fait, pendant la Révolution. Dans le Nord, l'insurrection prend très tôt une dimension radicale, dominée par les troupes d'esclaves insurgés, dont les revendications s'amplifient au fil du temps et où des tensions existent avec les chefs de l'insurrection. En revanche, dans l'Ouest et le Sud, les mouvements sont souvent encadrés par des libres de couleur alliés à des planteurs blancs. Ces zones voient apparaître des formes de pouvoir locales, dans certains cas des petites républiques, des petits royaumes ou des fiefs, où se reconfigurent les hiérarchies sociales et militaires. La Révolution haïtienne ne fut donc pas un phénomène unifié, mais un ensemble de dynamiques territorialisées qui étaient parfois concurrentes. Au sein des officiers de la Révolution, bien sûr, il y a une figure qui est inévitable, c'est celle de Toussaint Louverture. Affranchi, propriétaire de quelques esclaves, il s'impose progressivement comme l'un des chefs militaires majeurs et deviendra gouverneur de la colonie au nom de la République française. Son parcours exceptionnel a fait l'objet de nombreuses biographies, mais son héritage fait débat. Était-il un progressiste, un indépendantiste ? Quel était son rapport lumière à la France avant sa déportation et sa détention au Fort de Joux ? Très catholique, partisan du maintien de l'économie de plantation, mais sans esclavage, favorable à une autorité centralisée. Donc, c'est un personnage ambigu, complexe, présenté comme un personnage à la fois visionnaire et autoritaire. Et son positionnement ambigu entre émancipation et discipline sociale, fait de lui une figure à la fois essentielle, mais qui reflète toutes les complexités de la Révolution haïtienne. Donc, troisième question, troisième débat historiographique central, concerne les causes de l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qui a rendu possible, en 1793-1794, cette rupture majeure ? Quelles en furent les conditions concrètes, les acteurs impliqués et les logiques à l'œuvre ? La première réponse tient bien sûr à la lutte des esclaves eux-mêmes. Sans l'insurrection massive de 1791, sans la capacité militaire, politique et stratégique des insurgés, aucune abolition n'aurait été concevable. Cette insurrection a profondément ébranlé l'ordre colonial et obligé les autorités à revoir leurs priorités. Toutefois, l'abolition ne fut pas la conséquence automatique de cette révolte. Elle résulte d'un enchevêtrement de facteurs mêlant rapports de forces locaux, conflit entre représentants de la République et dynamique impériale. La position de la République française fut ambivalente. Les commissaires civils envoyés à Saint-Domingue, notamment Léger Félicité Sontonax, étaient officiellement chargés de rétablir l'ordre, de faire respecter les droits civiques des libres de couleur, mais non d'abolir l'esclavage. Leur action fut constamment tiraillée entre principes révolutionnaires, réalité coloniale et enjeux militaires. L'abolition de l'esclavage en août 1793 à Saint-Domingue, puis dans l'ensemble des colonies françaises en février 1794, en réalité seulement la Guyane et la Guadeloupe, fut ainsi le fruit d'une décision pragmatique autant qu'idéologique. Elle visait aussi à rallier les esclaves insurgés à la République pour repousser les menaces royalistes.
La bataille du Cap français en juin 1793, étudiée par Jeremy Popkin, illustre cette conjoncture explosive. Cette rivalité entre représentants de la République, l'affrontement entre libres de couleur et colons blancs, et les tensions avec les marins envoyés depuis la métropole. Ces conflits culminent dans une crise majeure à laquelle l'abolition fut la réponse politique et militaire. Mais cette abolition fut également conditionnée par un contexte de guerre impériale mondiale entre la France et la Grande-Bretagne, qui était aussi la conséquence d'affrontements intérieurs. La guerre de 7 ans, la guerre de l'indépendance américaine. En 1793, les Britanniques débarquèrent à Saint-Domingue avec l'appui de certains planteurs blancs désireux de maintenir l'esclavage et de restaurer l'ordre colonial. L'abolition devint alors un levier stratégique pour contrer cette alliance. En promettant la liberté et l'égalité aux anciens esclaves, les républiques espéraient consolider son emprise sur la colonie. L'intervention de Jean-Baptiste Bellay, élu noir de Saint-Domingue à la Convention nationale, joua également un rôle symbolique et politique. C'est après son arrivée à Paris que la Convention proclama, le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage dans les colonies, même si cette loi ne fut en fait appliquée qu'en Guyane et en Guadeloupe. Ce moment fut à la fois le produit d'une dynamique propre à Paris et d'une pression venue des événements sur le terrain à Saint-Domingue. C'est une sorte de dialogue. Donc un débat historiographique persistant oppose les partisans d'une lecture idéologique, soulignant le poids des principes universalistes et de la pensée abolitionniste, à ceux qui privilégient une lecture pragmatique, insistant sur les logiques de guerre, d'urgence et de survie politique. Mais je pense que la rivalité historique invite à dépasser cette dichotomie. L'abolition fut à la fois une décision de circonstance et un geste de rupture dont les effets dépassèrent les intentions immédiates des acteurs. Reste à s'interroger sur la nature même de cette abolition. Si elle mit fin juridiquement à l'esclavage, elle ne déboucha pas sur une liberté pleine et entière. Une nouvelle élite émergea, composée de généraux issus de la Révolution, dont certains étaient devenus de grands propriétaires terriens. Sous leur autorité, des règlements de culture furent instaurés. Ces textes, bien qu'interdisant le fouet et les formes nouvelles d'organisation au travail fondées sur le travail salarié, imposaient une forte discipline aux anciens esclaves, dans le cadre d'une économie de guerre. La production agricole restait vitale, non seulement pour l'exportation, mais aussi pour assurer l'approvisionnement en vivres et en armes. Ce système, parfois qualifié de caporalisme agraire, visait à encadrer les travailleurs dans un dispositif quasi militaire. Donc, face à cette logique de reconversion autoritaire de l'économie de plantation, certains historiens comme Jean Casimir ont mis en lumière des formes de résistance populaire désignées sous le terme de contre-plantation. Des pratiques d'autonomie agricole, la réorganisation des campagnes en dehors des logiques du capitalisme intensif, mais aussi la réappropriation symbolique de la terre. Donc ces pratiques révèlent une conception démocratique alternative, souvent marginalisée dans les récits centrés sur les élites. Et donc ces tensions entre liberté proclamée et liberté vécue ne s'arrêtent pas en 1794, ni même en 1804. Elles traversent toute la période post-révolutionnaire et continuent d'alimenter les débats contemporains sur l'héritage de la révolution haïtienne. Quatrième thème, la dimension globale de la révolution haïtienne. La révolution haïtienne ne peut être pleinement comprise sans prendre en compte sa dimension globale. Ces aspects ont été au cœur de colloques organisés très récemment, notamment à Port-au-Prince en novembre 2023, je cite « Contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples » ou encore la semaine dernière à Paris « Révolution haïtienne, pouvoir, savoir et émancipation ». La dimension globale s'exprime d'abord dans la relation complexe entre métropole et colonie. Le dialogue entre Paris et Saint-Domingue était distendu par le temps et l'espace. Les décisions, les nouvelles, les proclamations arrivaient avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de décalage. Cette latence favorisait les distorsions, les malentendus, les rumeurs. À l'image de celle selon laquelle Louis XVI aurait aboli l'esclavage, ce qui contribua à déclencher certaines révoltes initiales menées au nom du roi contre les colons. Mais la portée globale de la Révolution tient aussi à sa dimension économique. Saint-Domingue, comme l'a souligné Dominique, était la principale colonie sucrière et caféière du monde. Elle représentait un nœud vital dans la circulation des biens des capitaux et des personnes dans l'espace atlantique. Un entrepôt qu'il a placé au cœur des rivalités impériales entre la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et une puissance émergente, les États-Unis. Ces flux matériels étaient accompagnés de circulations immatérielles. Les nouvelles, les récits, les peurs et les espoirs se propageaient par voie orale, dans les ports, sur les navires. Julius Scott, dans The Common Wind, a montré comment ces circulations informelles structuraient un véritable espace public atlantique, souterrain et multilingue. Une question récurrente se pose dès lors. La révolution haïtienne a-t-elle accéléré ou, paradoxalement, freiné la cause abolitionniste au-delà des frontières? Or, les historiens débattent car la réponse est nuancée. Elle a inspiré des révoltes dans d'autres colonies, à Curaçao, au Venezuela, ou alors aux États-Unis, en Virginie, car elle démontrait que l'émancipation était possible, ce qu'a souligné par exemple l'étude récente de Leslie Alexander. Mais de l'autre, elle a suscité un moment réactionnaire. Les nouvelles en provenant de Saint-Domingue nourrissent un climat de peur, où complots réels et fantasmés se mêlent, et où les législations esclavagistes se durcissent. C'est notamment le cas à Cuba, dont le développement économique, comme l'a montré Ada Ferrer, fut largement favorisé par l'arrivée de planteurs et d'esclaves quittant Saint-Domingue. Cuba, remplaçant la colonie française, devint alors le principal producteur de sucre au monde. Aux États-Unis, les révoltes furent réprimées avec une violence. Quant à la France, évidemment, le rétablissement de l'esclavage en 1802 dans les autres colonies montre bien que l'abolition proclamée quelques années plus tôt n'était ni irréversible, ni pleinement assumée. Et pourtant, malgré ce contexte de retour en arrière, Haïti devint un phare. L'existence même d'un État souverain, gouverné par d'anciens esclaves, constituait une réponse radicale aux horreurs de la traite et de l'esclavage. Aujourd'hui encore, des lieux de mémoire, comme le mémorial de la traite à Ouida, au Bénin, rappellent l'importance de cette révolution dans l'histoire mondiale de la traite de l'esclavage. Pour conclure, il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire, c'est un sujet gigantesque. En 30 minutes, on ne peut qu'effleurer un sujet aussi vaste. Mais si on veut resituer l'enjeu de 1825, il faut aussi insister sur le fait que la révolution haïtienne n'a pas simplement changé l'histoire d'une colonie. Elle a fissuré l'ordre colonial, modifié profondément l'économie atlantique et posé les bases d'un nouveau type d'État, un État né d'une insurrection contre l'esclavage. Il nous revient aujourd'hui de ne pas seulement la commémorer, mais de continuer à la penser et l'analyser, ce que fait une historiographie internationale extrêmement vivante, impliquant historiens haïtiens, mais aussi français, britanniques, espagnols, vénézuéliens, états-uniens, parmi beaucoup d'autres. En ce sens, les réflexions à venir sur 1825 doivent aussi nous aider à mieux voir à rebours ce que fut réellement la révolution haïtienne. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.